l'attente actuelle de l'Église ou prophéties qui l'établissent. 11 soirées données à Genève en 1840 par le frère John Nelson Darby. Première soirée. Nous lisons le premier chapitre de la seconde épître de Pierre. Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé de luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Introduction. Le chrétien doit chercher à connaître non seulement le salut qui est en Christ, mais aussi tous les fruits de ce salut. Il doit non seulement s'assurer qu'il est dans la maison de son Père, mais encore jouir des privilèges de la maison. Dieu nous a appelés par la gloire et par la vertu. Dans la gloire de Christ et de l'Église, Dieu nous donnant un avenir que lui-même a rempli de ses desseins, l'étude de cette précieuse vérité vient remplir nos pensées de la manière la plus utile. Et c'est sûrement un des buts qu'il s'est proposé en nous dispensant la prophétie, laquelle, nous révélant ses intentions, nous fait en qualité d'amis, Jean 15, verset 15, Éphésiens chapitre 1, verset 9, participer aux pensées qu'il occupe. Il ne pouvait nous donner un plus tendre gage de son amour et de sa confiance. Genèse 18, verset 17. Ni rien qui eût pour nos âmes une efficace plus sanctifiante. En effet, si c'est par le but qu'ils poursuivent que les hommes se caractérisent, notre conduite dans le présent se ressentira de l'avenir qui fait notre espérance. Elle emportera nécessairement le reflet et la couleur. Ceux qui n'ambitionnent que dignité, ceux qui ne rêvent que richesse, ceux qui n'attendent leur bonheur que des plaisirs du monde, agissent chacun selon ce qui est dans son cœur. Leur vie respective est réglée par les objets qu'ils affectionnent. Il en est de même de l'Église. Si les fidèles comprenaient leur vocation, qui est de participer à une gloire à venir toute céleste, qu'arriverait-il? C'est qu'ils vivraient ici-bas comme des étrangers et des voyageurs. En connaissant les prophéties qui regardent cette terre, ils comprendraient mieux la nature des promesses terrestres faites aux Juifs, les distingueraient de celles qui nous concernent, nous gentils. Ils jugeraient l'esprit du siècle et s'affranchiraient de préoccupations humaines et de soucis toujours funestes à la vie chrétienne. Ils apprendraient à s'appuyer sur celui qui a tout réglé, qui connaît l'issue des choses dès le commencement, et à se livrer tout ensemble à l'espérance qui leur a été donnée et à l'observation des devoirs qui en découlent. On prétend que le véritable usage à faire des prophéties est de montrer la divinité de la Bible par celles qui sont déjà accomplies. C'est bien un des usages qu'on en peut faire, mais ce n'est pas là le but spécial pour lequel elles ont été délivrées. Elles sont données non au monde, mais à l'Église, pour lui communiquer les pensées de Dieu et lui servir de guide et de flambeau avant l'arrivée des événements qu'elles annoncent ou durant le cours de ces événements. Que dirait-on d'un homme qui n'emploierait toutes les confidences d'un tendre ami que pour se convaincre plus tard qu'il a dit la vérité? Hélas, où en sommes-nous? Avons-nous à ce point perdu le sentiment de nos privilèges et de la bonté de Dieu? N'y a-t-il donc rien pour l'Église dans toutes ces saintes révélations? Car, certes, l'Église n'en est pas à se demander si Dieu, son céleste ami, a dit la vérité. Mais il y a plus. La plupart des prophéties, et dans un certain sens on peut dire toutes les prophéties, s'accomplissent à l'expiration de l'économie qui nous concerne. Or, à cette époque, il sera trop tard pour être convaincu de leur vérité ou pour les employer à la conviction d'autrui. Le jugement éclatant qui tombera sur ceux qui en doutent en sera la démonstration assez évidente. Je prends un exemple dans les prédictions du Seigneur. À quoi bon l'avertissement qu'il avait donné à ses disciples de s'enfuir dans telle ou telle circonstance s'ils n'avaient point compris ce qu'il disait ni cru d'avance à la vérité de sa parole? C'était précisément cette connaissance et cette foi qui les distinguaient de tout leur tous leurs compatriotes incrédules. Il en est de même de l'Église. Les jugements de Dieu vont frapper les nations. L'Église en est avertie, grâce à l'enseignement du Saint-Esprit, elle le comprend, le croit et échappe aux malheurs qui doivent arriver. Mais on objecte, ce sont des idées purement spéculatives, ruses de Satan. Si m'élevant au-dessus du présent, au-dessus du sentiment de mes besoins et des circonstances du moment, si, franchissant le domaine des êtres matériels, je m'élance dans l'avenir, dans ce champ livré à l'intelligence de l'homme, tout y sera vague et sans influence, ou je le remplirai soit de mes pensées, soit des pensées de Dieu. Mes pensées, voilà la spéculation. Les pensées de Dieu, c'est la prophétie qui les expose et les développe, car la prophétie est la révélation des pensées et des conseils de Dieu relativement à l'avenir. Quel est l'être portant le nom de chrétien qui ne jouisse pas de la perspective que la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent? Eh bien, c'est une prophétie. Si nous demandons comment s'accomplira-t-elle, ce n'est pas de la bouche de l'homme que doit sortir la réponse. La parole de la même prophétie nous instruit sur ce point et fait taire les imaginations et la vaine gloire de nos cœurs orgueilleux. En effet, bien que la communion de Dieu nous soulage et nous sanctifie, bien que cette communion qui doit être éternelle nous soit déjà donnée, Dieu a voulu agir sur nos cœurs par des espérances positives, et il a fallu qu'il nous les communiquât pour qu'elles fussent efficaces et que notre avenir ne fût ni vague ni rempli de fables artificieusement composées. Or, le Dieu de grâce et de bonté en soit loué, notre avenir n'est ni vague ni rempli de fables artificieusement composées. Car, dit l'apôtre, lorsqu'il veut entretenir la piété, la vertu, l'amour fraternel, la charité dans les âmes des fidèles, et faire qu'ils puissent se souvenir continuellement de ces choses, ce n'est pas en suivant des fables artificieuses que nous vous avons fait connaître la puissance et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Car lorsqu'il reçut de Dieu le Père l'honneur et la gloire, cette voix lui ayant été adressée par la gloire magnifique, « C'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma bienveillance », nous entendîmes aussi cette voix adressée du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne, et nous avons la parole prophétique plus ferme à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe éclairant dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant premièrement ceci, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une explication particulière, car jamais prophétie ne fut apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit-Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 21. En étudiant les traits les plus généraux de la prophétie, nous examinerons ces trois grands sujets, l'Église, les nations et les Juifs. En poursuivant cette étude, nous trouverons, selon la mesure de lumière qui nous est donnée, un résultat des plus doux, à savoir le plein développement des perfections de Dieu selon les deux noms ou caractères sous lesquels il s'est révélé dans ses relations avec nous. Aux Juifs, c'est comme l'Éternel qu'il se révèle. Exode chapitre 6, verset 3. À l'Église, c'est comme Père. Jésus, par conséquent, est présenté aux Juifs en qualité de Messie, centre des promesses et des bénédictions de l'Éternel envers leur nation. À l'Église, il apparaît comme Fils de Dieu, réunissant à lui ses plusieurs frères, et partageant avec nous son titre et ses privilèges, ceux d'enfant de Dieu, membre de sa famille, et co-héritier du premier-né, qui est l'expression de toute la gloire de son Père. Dans la consommation des siècles, quand Dieu réunira toutes choses en Christ, alors sera aussi réalisé le plein sens du nom sous lequel il s'est révélé à Abraham, chef des fidèles, de ce nom sous lequel il sera célébré par Melchisédek, type de ce sacrificateur royal qui sera le centre comme l'assurance de la bénédiction de la terre et des cieux réunis, le nom de tout-puissant possesseur des cieux et de la terre.